La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Allô tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de la quotidienne. Je suis en compagnie d'Izzy Lévesque. Bonjour Izzy, comment ça va?
Ça va super bien. Toi Michel, ça va bien?
Ben oui, ça va bien. Aujourd'hui, on est entre autres avec Simon Bégin de l'Institut Jean Garon. On a également Michel Saint-Pierre qui est avec nous, qui est co-président de l'Institut. Mais on va parler de quelque chose d'important qu'il a fait. Il a publié récemment une lettre ouverte dans Le Devoir qui pose une bonne question. Est-ce que nos terres agricoles sont vraiment notre garde-manger? Bonjour, messieurs.
Bonjour, bonjour, Michel. Alors, oui.
Et j'allais dire, Izzy, oui, ça va bien pour répondre à ta question.
Oui, quand même, tu poses la question à tout le monde, mais on ne sait pas toi si tout va bien.
Oui, ben, oui, quand ça même. Va bien. Bonjour. Écoutez, on va commencer avec cette lettre que, Michel, vous avez fait parvenir au Devoir. Qu'est-ce que c'était précisément?
D'abord, c'est une lettre que je réfléchissais depuis un bout de temps, parce que pendant la pandémie, dès le tout début, on a commencé à avoir peur de manquer de nourriture. Hein? C'est né de ça.
Ça a été une des premières craintes, outre le papier toilette.
Oui, qui était très populaire.
Oui, absolument. Celle-là m'a bien fait rire, par contre. Mais celle pour l'alimentation, bien sûr, il y a une chaîne d'alimentation qui vient d'un peu partout. Et on a souvent dit, là, il faut protéger notre garde-manger. Moi, ça me faisait réfléchir parce que je connais un peu le territoire agricole et je sais à quel point il n'est pas véritablement orienté dans le sens de nous nourrir. Ce qu'il est, en fait, ce que je raconte là-dedans, c'est que par 40 % de notre territoire, ça c'est un chiffre assez vérifié, 40 % du territoire agricole qu'on appelle zoné vert, hein, oui. C'est l'expression, oui. 40 % n'est pas en production. Pourquoi? C'est souvent des villages ou des régions qui étaient laitières avec une vie économique autour d'une usine. Ça a été tout concentré dans une région plus près des grands centres. Et beaucoup de nos régions laitières sont devenues un peu à la recherche d'une nouvelle vocation, si on veut.
Donc c'est des terres à toute fin pratique inutilisées?
Elles sont en friche, elles sont certaines en pâturage. Il y a aussi des boisés, mais ils ne sont pas considérés comme étant dans une activité agricole.
En fait, ils ne sont pas à leur plein potentiel.
Ils ne sont pas nourricières, si on veut, là, si on veut le terme.
Mais est-ce qu'il y a des plans pour justement que ça le devienne? Ou...
C'est un peu la conclusion de ma lettre.
J'ai même pas besoin d'écrire la lettre. Déjà la conclusion.
La lettre s'adresse un peu à notre milieu politique. Hein. Et ce que je dis dans la lettre, c'est que le paysage agricole qu'on a, là, avec, par exemple, beaucoup de céréales, maïs, grains, soya, destinés à l'alimentation animale, l'alimentation porcine, ça, c'est une très grosse partie de notre territoire les plus riches, là, les basses terres de la vallée du Saint-Laurent, celles qui valent très cher, d'ailleurs. Mmh. Alors, ce territoire-là est occupé beaucoup pour alimenter nos porcs qu'on exporte. Alors, moi, ça aussi, ça me questionne.
Oui, bien, c'est ça, exactement. Là, parce que, est-ce que c'est notre garde-manger? Si une grande partie de la production, c'est pour l'exportation.
C'est ça.
Bon, ouais. À toute fin pratique, dans un cas d'extrême urgence, durant la pandémie, je présume qu'on aurait peut-être pu se détourner un peu de contenu pour notre marché à nous. Mais est-ce que ça suffit?
Mais pour répondre à la question d'Izzy, c'est pas arrivé par hasard, comme ça. C'est arrivé parce que le gouvernement, des années 80, a lancé des grandes opérations pour faire du maïs-grain, d'abord et avant tout, là, sur ces terres-là. Il y en avait très, très peu qui se faisaient. Mais ils ont mis en place un programme qui s'appelle l'ASRA, qui disait aux gens, écoutez, on va vous soutenir si jamais le marché, parce que les marchés de céréales, on sait, ça a monté, ça descend. Donc, ça l'a amené, dans le fond, une véritable transformation de notre paysage agricole. Le porc, exactement la même situation. Là aussi, on a dit aux gens, puis il y a eu une grande opération qu'on disait la conquête des marchés. Ça a même fait l'objet d'une grande table, d'un sommet, si on veut, genre table ronde, avec premier ministre et tout le monde était là, pour dire, allons-y, conquête des marchés, on va faire du porc. Donc, les programmes gouvernementaux ont fait en sorte, directement, qu'on fait du porc, qu'on exporte, puis qu'on fait au milieu, dans la région de la vallée, les basses terres, qu'on fait du maïs, puis du soya. Et c'est comme ça. Alors, la conclusion, c'est Si le gouvernement a été capable de faire ça, si les programmes gouvernementaux ont été capables de faire ça, mais pensons à des programmes qui vont faire autre chose.
Oui, Michel, ouais, en fait, la question que tu soulèves, c'est un peu une des questions qui avait été soulevée dans par la commission Pronovo il y a déjà 18 ans quand même. C'était le manque de diversification de notre agriculture.
Ouais, exactement.
Hein? La mère de maïs et de soya qu'on voit dans la plaine de Solaire. Les gens, des fois, ils me disent, ben oui, il y a du maïs, on peut le manger. Non, non, ce maïs-là, vous ne pouvez pas le manger. C'est pour les vaches et les cochons.
C'est vrai, ça. Non,
c'est ça. Le manque de diversité de notre agriculture, là, il est frappant. Oui, je vais donner une exception. Fruits et légumes surtout production maraîchère, on a un très beau jardin, si on veut. Mais pour le reste, là, on importe tout le blé qu'on consomme, ou à peu près, comme tout ce que vous voulez, le pain.
Mais on pourrait en cultiver.
À l'origine, les premiers colons ne faisaient que ça.
OK.
À peu près, pour faire leur pain, justement. Donc, on peut faire du blé pas mal partout. Les légumineuses qu'on propose pour remplacer les viandes, les protéines animales.
Ça, c'est pois chiches, compagnie.
C'est pois chiches, c'est lentilles, c'est
on pourrait produire ça sur ces terres-là, je présume également.
Ce serait formidable qu'on pourrait en faire de ça, là. Mais il n'y a aucune impulsion, il n'y a aucun appui.
Aucun incitatif.
Il n'y a même pas un message dans ce sens-là.
Mais est-ce qu'il y a des agriculteurs qui sont intéressés à le faire d'abord et avant tout?
Oui. D'abord, si je le dis, c'est parce qu'il y en a certains qui le font. Ils le font d'eux-mêmes. Ils le font parce qu'ils ont décidé que cette diversification-là était bonne pour eux, mais pour leur terre également. Parce que la rotation maïs-soya, là, c'est pas à terme, c'est pas un succès pour la terre, c'est l'épuisement graduel.
Enfin, il y a un enjeu environnemental derrière ça.
Aussi. Il y a aussi, donc, cette diversification-là est hautement souhaitable pour le sol également, donc pour l'avenir et la pérennité de nos terres.
Donc, ça serait très profitable, finalement, là, de bout en bout.
Je comprends pas qu'on soit pas encore rendu à penser ça, là. L'analyse du passé, là, on peut le faire quasiment année après année. Comment les choses sont...
Mais est-ce que ça ne prendrait pas un incitatif ou est-ce qu'il y a des producteurs qui n'attendent pas un incitatif? Le gouvernement qui dit, écoutez, on a une petite enveloppe, si vous allez dans cette direction-là,
exact. On
va vous protéger si vous avez des pertes.
Ça prend un incitatif, Michel, c'est bien sûr, parce que les gens qui sont équipés pour produire 2000 hectares, 1500 hectares de maïs, grains et de soya, ils ont des équipements en fonction de ça, ils ont des séchoirs, donc ils sont équipés. Ces gens-là, là, ils ne changeront pas du jour au lendemain pour s'en aller dans d'autres choses sans qu'on puisse les aider à faire la transition. C'est là que l'analyse ne se fait pas, qu'on propose rien. Dans le fond, on a établi le statu quo comme étant une règle absolue là-dedans. On change rien. Sauf que la qualité des sols, je reviens là-dessus, se détériore. Et ça, c'est un constat là, d'experts dans le domaine. On peut pas faire ça. Encore 20 ans, là, sans en payer le prix pour la suite des choses.
Ah, et puis, j'aurais une autre question aussi, ce qui va aller peut-être un petit peu plus loin, qui va peut-être rejoindre justement les consommateurs. Si justement, bon, tout ça arrive, ça va bien, et on va avoir une plus grande diversité, est-ce que ça peut paraître dans notre panier d'épicerie sur notre facture?
Ça pourrait, oui. C'est sûr que plus on réduit les coûts d'intermédiaires, les marchés, les courtiers dans les domaines, plus on réduit ça, plus on risque d'avoir un fil direct entre celui qui produit et celui qui consomme.
Et on en a dit quelques mots il y a quelques instants, avec tout la conscience environnementale qu'on est en train d'avoir de plus en plus, la proximité des produits, limiter le transport, ça fait partie des éléments qui sont extrêmement soulevé. Qu'attend-on du côté des gouvernements pour s'attaquer à cette filière-là? Voilà. Parce que
devrait être encouragé.
C'est beau, là, l'auto électrique, mais il me semble que de ce temps-là, la seule chose qu'on entend de notre gouvernement, justement, c'est les véhicules électriques, alors qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire, justement, au niveau de l'agriculture.
Je ne sais pas si c'est un manque de conviction au départ, s'ils ne connaissent pas, s'ils ne comprennent pas l'enjeu, ou bien c'est plus facile de faire de statu quo que faire du changement. Le changement, c'est toujours quand même quelque chose qui est difficile, il faut dire ça, là. Ça amène des gens à dire « Ah, ça allait bien », alors tout changement à peu près dans notre vie implique qu'il y a un petit stress additionnel. Alors ça prend un gouvernement convaincu d'une part, avec un message fort. Puis on l'a eu dans le passé. Quand Jean Garon faisait un message, il n'allait pas par quatre chemins. Il était clair. Il parlait au niveau des gens qui comprennent. Alors, donc, le message n'est pas bien clair, il n'est pas fort. Puis le gouvernement n'a pas encore, n'a pas encore donné l'impression qu'il était pour agir dans ce sens-là.
Excellent. Bien, on va suivre ça attentivement. Michel, avez-vous quelques retours là, de cette lettre-là? Il y a sûrement des journalistes qui ont communiqué avec vous. Est-ce qu'il y a des gens du monde politique qui vous en ont parlé? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose autour de ça?
Les politiques ne répondent pas beaucoup à ce genre de choses-là. Il faut aller assez loin, il faut brasser passablement. Mais du côté, oui, bien sûr, j'ai eu des appels. J'ai eu
du milieu.
Le lendemain de Radio-Canada, pour ne pas nommer, okay. qui s'intéresse beaucoup à un dossier dans ce sens-là. Alors, donc, c'est à suivre. Ouais. Alors, mais c'est un reporter connu qui généralement...
Tu peux peut-être faire bouger des choses.
Dans le fond, le gouvernement va changer si l'opinion publique se manifeste. Et c'est un peu le début de l'Institut Jean Garon, c'est de porter ces questions-là sur la place publique pour que les gens réagissent. Les gens se disent, écoutez, c'est bien beau, là, c'est une mer de maïs puis de soya, mais on pourrait peut-être avoir d'autres choses. Alors, les gouvernements vont être à l'écoute si les gens se manifestent, puis s'ils exigent qu'il y ait des changements.
Il ne faut pas demander aux gens de faire des sacrifices tout seuls là-dedans. Il faut qu'il y ait des appuis.
Un mouvement de groupe.
Oui, tout à fait.
On va suivre le dossier attentivement. On fait une pause, on revient dans un instant à la quotidienne.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin, fromagerie L'Ancêtre, fromagerie La Station, fromagerie Les Basques, laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole.
Et nous voilà de retour. Je vous rappelle pour ce segment, mais il y a toujours ma co-animatrice Izzy Lévesque qui est avec nous. J'ai Simon Bégin de l'Institut Jean Garon qui est en studio avec nous. On a Guy de Bailleul de l'Institut également qui est au bout du fil avec nous. Et on a un invité de l'UQAM. Je te laisse se présenter, Simon.
Oui, alors M. Michel Rochefort. Oui, M. Rochefort, bienvenue. Merci de participer à notre émission. Vous êtes enseignant à Laval, à l'UQAM, en aménagement de territoire et en tourisme. Peut-être que vous pourrez le préciser. Maintenant, écoutez, on a pensé vous inviter parce qu'il y a actuellement au Québec une vaste consultation sur une réforme de la loi de protection du territoire agricole. Et vous avez, d'ailleurs, j'étais là aussi sur le webinaire pour l'Institut, vous avez participé récemment à un webinaire convoqué par le ministre de l'Agriculture pour justement une des étapes de cette vaste consultation-là. Vous étiez là à titre d'expert et personnellement, j'ai bien aimé vos interventions, vos commentaires. Alors, écoutez, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur un point que vous avez soulevé et qui est très important, je pense. Dans cette réforme-là, est-ce qu'il est nécessaire, est-ce qu'il va être nécessaire d'affaiblir la loi de protection pour accommoder les municipalités? On semble décoder ça un petit peu dans les intentions du gouvernement que, bon, il faut trouver des façons de permettre aux municipalités d'avoir un peu plus de dynamisme, les municipalités rurales. Alors, qu'en est-il vraiment à votre point de vue de cette nécessité supposée d'affaiblir la loi de protection du territoire agricole?
Oui, bonjour. Premièrement, merci pour l'invitation d'intervenir dans votre émission. Je ne sais pas si c'est la vision du gouvernement, mais la vision de certains partenaires, du moins du milieu municipal, régional et peut-être gouvernemental, d'avoir un assouplissement de la loi sur la protection du territoire agricole. Mais moi, ma position, c'est oui, il faut être flexible, mais flexible ne veut pas dire avoir moins de critères nécessairement, mais d'avoir une meilleure interprétation de la situation du terrain basée sur vraiment des interprétations un peu plus fouillées, rigoureuses et avec des méthodes transparentes. Je vous donne un exemple. Maintenant, la loi parle déjà qu'on peut avoir un certain jugement sur le développement économique d'une région lorsque c'est le temps d'autoriser un usage non agricole en zone agricole. Mais je pense qu'au-delà de l'effet économique, il faut regarder l'effet social, l'effet environnemental, l'effet de la mobilité et de dire que l'assouplissement demandé ne se traduit pas par moins de critères, mais par quelque chose vraiment beaucoup plus fin, basé sur une analyse vraiment du développement total d'une région et toujours en privilégiant la conservation de la zone agricole. Je pense que le côté conservation, protection et mise en valeur de l'agriculture doit demeurer le principal objectif.
Écoutez, on entend souvent dire de par des citoyens qu'ils sont dans l'impossibilité, ils désireraient s'établir en campagne, être plus près de la nature, mais qu'à cause de la loi de protection, c'est pas possible. Alors, il y a quand même des possibilité quand même pour un citadin d'avoir un lopin, d'avoir un bout de terre en campagne. Puis c'est, ça n'a pas l'air d'être très connu.
Oui, ben il y a déjà des possibilités permises dans la loi sur ce qu'on appelle les îlots déstructurés. Oui. Donc des îlots qui sont déjà, disons, envahis par une certaine population qui peuvent être aussi des très grands terrains. Il y a des îlots déstructurés qui sont quand même très grands. Mais c'est sûr que les citoyens, souvent, quand ils veulent aller en campagne, pas nécessairement pour des raisons agricoles, veulent être entourés de la nature. Mais là, il faut faire attention quand on parle d'aménagement, de bien mettre en relation les choix individuels et l'intérêt collectif et comprendre la bonne marge de manœuvre. Je pense que ce qui serait nécessaire avant d'autoriser de nouvelles occupations en zone agricole, c'est bien comprendre le portrait actuel et ça nous manque actuellement. Actuellement, le portrait est incomplet. On sait que dans quelques années, plusieurs habitations déjà disponibles en zone agricole avec les changements démographiques pourraient être rendues disponibles. Donc, ça serait bien d'avoir un portrait de la situation réelle de qu'est-ce qui est occupé à court, moyen et long terme et comprendre les parcours résidentiels des gens. Donc, il faudrait aussi comprendre que c'est sûr que les citoyens voient dans la zone agricole de la nature, mais la zone agricole, c'est pas un territoire vide d'usage. C'est pas un territoire en attente de développement. C'est vraiment un territoire qui est souvent productif. Et ça, on a du mal un peu à le comprendre.
Justement, Monsieur Rochefort, on avait l'impression que dans le document qui a été présenté, que une des façons d'accommoder les demandes des municipalités, ce serait de traiter différemment les sols agricoles selon leur qualité agronomique. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre les sols de bonne qualité agronomique et les sols dits de moins bonne qualité à partir du moment où ils peuvent avoir une vocation agricole.
Oui, tout à fait. Donc, il faudrait, dans le fond, l'agriculture ne se fait d'une part pas uniquement sur le sol. On pourrait faire des serres ou d'autres formes d'agriculture. Il y a d'autres intervenants qui mentionnaient aussi qu'un sol de faible qualité peut être amélioré pour arriver à une meilleure qualité déjà. Donc, il faut penser le sol sur un horizon beaucoup plus large, à la fois productif, donc il pourrait avoir différentes formes de production, mais à la fois aussi un sol qui pourrait s'améliorer aussi avec le temps. Mais il faut aussi penser que le sol, même de moins bonne qualité, participe aussi à établir une certaine distance entre les zones plus urbanisées et les zones, disons, où il y a certaines nuisances agricoles. Donc, il ne faudrait pas non plus entamer ces zones en disant ben ils sont pas occupés agricoles, mais ils peuvent aussi avoir un rôle au niveau des nuisances, ils peuvent aussi avoir un rôle au niveau des avantages écosystémiques. Ça peut être des zones un peu plus humides qui permettent de mieux drainer les sols. Donc faut vraiment avoir une vision complète, et c'est pas parce qu'un sol est de moins bonne qualité qu'on devrait être moins sévère sur cet élément. Et ce qu'il faut penser aussi, c'est qu'avec les changements climatiques, le développement durable nous a appris qu'il faudrait appliquer le principe de précaution. Donc, comme on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, ben tout sol devrait être conservé par principe de précaution, en disant peut-être qu'il va être utile plus tard, ou peut-être qu'on va trouver justement une utilité qu'avec les changements climatiques qui arrivent. Je pense qu'il faut quand même avoir cette notion. Et comme on a vu dans les documents de consultation, le Québec a déjà très peu de terres protégées par rapport aux autres provinces. Donc, ça serait dommage de se servir de la notion de bonne qualité des sols pour faire diminuer cette protection.
Oui, écoutez, moi j'ai participé au webinaire et on peut dire, je sais pas si vous êtes d'accord, que la presque totalité des participants, que ce soit l'UPA, l'Union Équitaire, tous les gens qui étaient là, étaient d'accord pour dire que c'est pas une bonne idée d'avoir une espèce de protection du territoire agricole à deux vitesses, très sévère pour les bonnes terres et plus souple pour les autres. Alors, est-ce que d'après vous, quand on entend ça, le gouvernement va devoir ajuster le tir un peu avec cette idée d'une protection des terres à deux vitesses?
Oui, au moins clarifier si ce n'est la consultation sur les terres agricoles ou la consultation actuellement qui se fait en parallèle sur les orientations gouvernementales en aménagement. Là, les deux font en sorte que ça laisse présager peut-être un intérêt à être moins sévère. Est-ce que c'est une impression, une réalité? Ça, je ne saurais vous le dire. Mais il y a un autre élément aussi qui se laisse présager, c'est la notion de compensation aussi, qui peut être dangereuse, c'est-à-dire de prendre des terres agricoles d'un côté et de compenser, dans le fond, de permettre l'autorisation d'un côté et de compenser ailleurs. Et ça aussi, c'est un jeu qui pourrait être dangereux, étant donné que chaque zone agricole est très peu comparable à une autre zone qui serait dans un autre secteur. Donc, là aussi, c'est un autre danger qu'on voit dans la consultation, là, à la fois d'être peut-être moins sévère sur certaines terres ou d'ouvrir la porte à la compensation, là, de si on utilise telle terre, de le compenser par d'autres terres. Mais là aussi, ça ouvre une brèche qui pourrait être un peu difficile à gérer sur le long terme, d'où l'intérêt d'être vraiment, conscient et à l'affût de ce qui s'en vient.
Et parmi les points que vous avez soulevés aussi lors de ce webinaire, vous avez mentionné que lorsqu'on a affaire à des demandes d'exclusion ou d'autorisation à des fins non agricoles, il y aurait lieu, selon vous, lieu de distinguer entre des demandes pour des usages industriels et des demandes pour des usages commerciaux. Est-ce que vous pouvez préciser un peu votre point de vue là-dessus?
Oui, ben c'est que les deux usages sont souvent mélangés. Souvent, on confond le commerce et l'économie, et l'industrie et l'économie. Dans le fond, le commerce ne devrait pas être en zone agricole, il devrait être dans les villes, les villages, et pour permettre un certain dynamisme au niveau commercial, mais aussi au niveau pour limiter les déplacements entre les différents types de commerce, les différents services. Donc déjà, le côté commercial ne devrait tout simplement pas se retrouver en zone agricole. Le côté industriel, donc de juger si on a une exclusion, quelle est la retombée réelle au niveau de l'économie d'une nouvelle industrie. Si c'est un déplacement industriel, ça ne crée pas de nouveaux emplois. Donc, ça devrait pas être nécessairement permis. C'est qu'une industrie aille s'installer en zone agricole pour économiser sur le coût de terrain et vendre son ancien terrain pour du développement résidentiel, ça devrait être tout simplement non permis. Donc, il faudrait, si on vient à autoriser des industries en zone agricole, il faudrait avoir des critères de création d'emplois nets et pas uniquement de déplacement.
Écoutez, un des grands enjeux quand on parle de protection du territoire, c'est l'étalement urbain. Et je pense que vous avez souligné, vous avez souhaité que face à la demande de terres agricoles à des fins résidentielles, qui est peut-être un peu la principale menace sur notre territoire agricole, qu'il devrait y avoir un moratoire de plusieurs années à partir de maintenant, zéro étalement urbain, En attendant que, ben, en fait, c'est un petit peu complexe, mais il y a quand même, parallèlement à la consultation sur le territoire agricole, il y a une consultation sur la politique d'aménagement du territoire. Et cette politique-là, ce renouveau-là, cette politique-là, ne donnera pas d'effet avant plusieurs années. Et vous dites qu'entre-temps, avant que les nouveaux plans d'aménagement des municipalités soient sur la table, on devrait interdire tout simplement l'étalement urbain à des fins résidentielles. Pouvez-vous nous en parler un peu de ce souhait-là?
Oui, ben c'est actuellement on observe quand même un renouveau de notre volonté d'aménager le territoire québécois. Là, il y a beaucoup de documents qui sont sortis depuis 2 ans. Il y a beaucoup de consultations qui se font en même temps. Donc l'idée, ce serait au moins d'attendre l'effet de ces nouvelles modifications avant d'aller plus loin. Donc, dans le fond, les nouvelles modifications qui viennent d'être instaurées à la loi sur l'aménagement du territoire par l'adoption de la politique nationale, notamment, fait en sorte que des nouveaux schémas et plans d'urbanisme vont être conçus dans les prochaines années. Mais les prochaines années, c'est un minimum de 5 à 10 ans. Donc, ça serait dommage qu'en attente de cette réflexion, en attente de ces nouveaux enjeux d'aménagement, qu'on fasse en parallèle une modification à la LPTA, la loi sur l'agriculture, pour venir pendant qu'on fait réfléchir à autoriser des choses qu'on pourrait regretter par la suite. Donc, selon moi, on a actuellement, il y a toujours la possibilité de se construire dans les îlots déstructurés. Donc, cette notion pourrait rester puisqu'elle est déjà assez bien définie. Mais en dehors de ces îlots déstructurés, en dehors des îlots déstructurés déjà acquis, il devrait avoir un moratoire pendant un certain temps, si ce n'est que de laisser le temps nécessaire à la réflexion. Et ce temps nécessaire, c'est 5 à 10 ans. Et ça permettrait aussi un encouragement, disons, une pression supplémentaire aux MRC et aux villes de mettre à jour le document de planification. Parce que ce qu'on a remarqué dans les 30 dernières années, c'est qu'il y avait quand même un retard considérable dans la mise à jour des documents de planification. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de carottes et de bâtons. Dans le fond, on leur dit qu'ils doivent renouveler, repenser leur document de planification, mais il n'y a rien qui les force pour autant. Tandis que là, si on leur dit, non, il y a un moratoire, réfléchissez et prouvez que vous avez besoin de vous étendre ou d'aller chercher de nouveaux secteurs.
Intéressant. Et c'est de voir si éventuellement il y aura un incitatif ou une façon de faire par les...
De toute façon, merci, M. Le Rochefort. Et on va revenir sur le sujet là au cours d'automne à l'Institut. On a l'intention de suivre ça de très près. Et je pense que c'est intéressant. C'est important d'attirer l'attention des auditeurs sur ces enjeux.
C'est Michel Rochefort, professeur au département d'études urbaines et touristiques de l'UQAM. Là-dessus, merci beaucoup, Simon. Merci, Guy. Merci beaucoup, Isabelle. C'était une autre édition de cette quotidienne. On vous dit à bientôt.